Le Centre Nordique d'Agi vous souhaite la bienvenue et vous présente une réalisation innovante, la piste entre les oreilles. Grâce à cette cassette, nous espérons vous initier à la lecture des paysages qui nous environnent et peut-être ainsi comprendrez-vous mieux quelques points importants qui expliquent le visage de nos montagnes. Pour votre confort et votre sécurité, vous n'écouterez pas la bande en progressant à ski, mais seulement aux stations prévues sur le terrain, stations que vous reconnaîtrez à leurs panneaux et où vous pourrez même trouver un banc. Rendez-vous donc au premier lieu d'écoute, situé à environ 500 mètres, à l'altitude 1340 mètres, soit une dénivelée de 50 mètres, que nous vous conseillons de gravir à allure modérée.
Pas comme Evelyne et Emile, qui, tout au long de ce parcours, nous suivront en nous racontant leur vie d'autrefois sur l'alpage d'Agi.
Mettez un quart d'heure de chez nous pour monter au flaquière.
Cool.
Tous les jours, en tricotant. Je faisais mon tricot tout le long.
Je pense à la missiller. Vous avez rencontré la
missiller. Mais ça se fait plus, ça, même.
Le travaillant.
Parce que c'est plus...
Du tout.
Ça, c'est des vieux trucs dans le temps.
Il y a tricoté en marchant. Si, ça y allait. Il y a pas envie de dérouler l'air. Aucun courroir, j'ai filé, vous n'avez rien dit.
Tu pouvais la suivre
à la trace. Aucun courroir, vous verrez, pour ainsi dérouler tout le temps. Mais ça y allait.
Moi, j'avais fait le pull-over, rien qu'en montant, le temps de monter. Pour descendre, je tricotais pas parce que j'allais trop vite. Je courais.
C'est incroyable.
Mais pour monter, je tricotais tout le long. Je trouvais moins le temps long. Et j'arrivais en haut, on se mettait à traire et puis on lâchait les vaches. Puis jusqu'à 10h, on était assis par terre dans les prés.
À présent, vous pouvez éteindre votre baladeur et le ranger dans sa banane. Nous voici donc au premier lieu d'écoute, situé au lieu dit La Borde. Pendant que vous observez, pourriez-vous essayer de donner un nom à ce paysage? Pour vous aider, voici un indice sonore. Et voilà le titre qui, selon Michel Delamette, définit ce paysage.
Entrer dans les Alpes par la porte de l'Arve. Donc c'est par ce site, qui est commun aux deux parcours, que nous allons pénétrer dans les Alpes. Et quelle est la meilleure voie de pénétration dans les Alpes, si ce n'est la vallée de l'Arve, voie de communication aisée. La vallée de l'Arve qui s'étend devant nous entre deux portails montagneux que sont le Môle, que vous voyez sur votre droite, cette petite pointe herbeuse, et l'ensemble de reliefs sur votre gauche, qui se termine avec la pointe d'Andet, donc qui domine la vallée de l'Arve sur sa partie gauche. Pénétrons dans les Alpes par cette porte. Maintenant, nous sommes devant ce portail avec nos deux piliers. Nous arrêtons un petit moment avant de pénétrer dans les Alpes, avant de rentrer dans la montagne. Et nous allons un peu détailler ce que nous allons voir quand nous allons rentrer dans cet univers. Alors, d'une manière très simple, nous allons distinguer, vous pouvez voir par vous-même, en fait, si on vous demandait de les classer, qu'il y a trois grandes régions naturelles qui s'organise de l'intérieur du cœur des Alpes vers sa périphérie, vers l'extérieur. Et ces trois grandes régions ont chacune leur relief propre. Alors, à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par le toit de l'Europe. Ce toit de l'Europe, vous le voyez sur votre gauche, complètement à gauche du panorama qui s'étend devant nous. Et ce toit de l'Europe, c'est le Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est donc notre premier paysage. Vous avez tous vu soit le Mont Blanc par des images télévisuelles, soit vous l'avez vu avec plus de chance de vous-même en allant dans la vallée de Chamonix. Et qu'est-ce qui est frappant pour le Mont Blanc, c'est un paysage très élevé, 4807 mètres, Et il est constitué de roches dans lesquelles on ne trouve pas de fossiles, des roches formées en profondeur, qui sont des roches cristallines. Donc notre premier paysage, notre premier élément de notre parc montagneux, ça sera les chaînes cristallines que nous voyons au cœur des Alpes. Deuxième élément, et ça vous l'avez magnifiquement étalé devant vos yeux, c'est une suite de reliefs avec des montagnes, des points plus bas, des plateaux, et ces reliefs montagne-plateau alternent. C'est exactement les 9 dixièmes du paysage que vous avez devant vous, qui partent depuis le massif de Platé, dont vous voyez les reliefs très réguliers en barres et falaises qui sont couronnés par des petits clochetons, qui sont des aiguilles. C'est notre deuxième ensemble. Dans ce deuxième ensemble, nous pouvons aussi y ranger le massif de la Pointe Percée, dont nous voyons poindre le petit sommet derrière un massif aussi régulier que Platé, mais qui lui fait face par rapport à la vallée de l'Arve qui est en vis-à-vis, qui a été tranché simplement par la vallée de l'Arve, qui est le massif donc, de la pointe d'Arreux que vous avez devant vous. Et puis vous avez une autre, je ne vais pas trop entrer dans les détails de ces paysages, mais vous avez aussi des plis comme le Bargy, qui est magnifique, qui est à peu près au centre du panorama pour nous, et qui est, vous voyez, dans le sommet subhorizontal, et qui pend des deux côtés très fortement. Vous voyez que donc ce paysage est différent du massif du Mont Blanc. Il y a une certaine régularité avec ces escarpements bien verticaux, éventuellement couronné de petits clochetons, mais qui sont secondaires. Ce qu'on remarque ici tout de suite, c'est une suite de lignes qui peuvent être horizontales, qui peuvent être courbes, mais une espèce de continuité. Voilà notre deuxième type de paysage. Alors le troisième type de paysage, vous le connaissez déjà, puisque vous êtes rentré avec lui, vous êtes grâce à lui au cœur devant ce portail, c'est le paysage de la plaine, qui borde toute montagne en fait, et qui correspond ici pour nous à la plaine de l'Arve qui se poursuit dans la région de Bonneville, La Roche, etc. et qui va beaucoup plus loin. Si vous venez de Lyon, vous avez roulé très longtemps dans la plaine avant d'arriver devant ce portail. Avant de la quitter, je vais peut-être vous faire remarquer quelque chose que vous n'avez pas remarqué et qui va nous aider à mieux comprendre la montagne. Dans cette plaine, vous avez peut-être vu en roulant, vous avez longé, en tous les cas, si vous ne l'avez pas vu, on le voit maintenant d'ici, au milieu de cette plaine, et qui a fabriqué cette plaine en quelque sorte, vous avez une rivière, qui est l'Arve justement, et cette rivière, quelle signification, quel rapport avec la montagne, vous me direz? Eh bien, son rapport, c'est très simple. La rivière transporte des éléments, non seulement les galets que vous voyez, qui est la partie la plus visible, la plus spectaculaire, mais qui n'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, elle voyage caché, à l'état dissous dans l'eau, donc on ne peut pas le voir à l'œil nu, mais c'est des quantités énormes, compte tenu que l'Arve coule jour et nuit, ne s'arrête pas, avec un débit important, et toute l'année. Cette eau qui circule, qui va, grâce simplement à la pente qui existe jusqu'à la Méditerranée, cette eau donc va partir et évacuer des tonnes et des tonnes de matériaux. Alors ces matériaux, tout simplement, d'où viennent-ils? Ces matériaux qui s'en vont correspondent simplement au vide que vous avez devant vous entre les reliefs, c'est-à-dire à tout ce qui est en dépression, aux vallées, aux cols, aux plateaux. Donc, c'est pour nous une rivière en tant que géologue, pour comprendre une montagne, c'est le vecteur qui nous construit notre montagne, qui va nous permettre la fabrication de la montagne. S'il n'y avait pas d'eau, s'il n'y avait pas d'écoulement d'eau, nous n'aurions absolument pas une montagne, nous aurions peut-être un relief qui serait soulevé à cause du plissement, mais ce relief n'étant pas attaqué par l'érosion, serait simplement une bosse uniforme montée, limitée par des plaines, ce qui correspond aux endroits non déformés, mais il n'y aurait en aucun cas la sculpture du relief qui fait tout le charme des montagnes, avec ses vallées cachées, qui fait que c'est un paysage très compartimenté, où il y a énormément de choses à découvrir, où chaque vallée a sa particularité, a son caractère propre, son type d'ensoleillement, suivant son orientation, si elle est est-ouest, si elle est nord-sud, sa végétation, suivant la nature des sols, et finalement ce qui fait toute la richesse d'un paysage montagneux, qu'on oppose souvent, à juste titre d'une certaine manière, à la monotonie des plaines, où tout le paysage, d'une certaine manière, s'offre à nos yeux dans son intégralité, sans qu'il y ait vraiment du secret. Le secret va peut-être résider en ce que les hommes auront construit dans l'histoire, mais non pas dans son relief. Alors que la montagne, il y a aussi le secret des hommes, il y a aussi des places fortes, il y a aussi toute une histoire, tout un passé, des contes et légendes notamment, mais en plus, vous avez le relief lui-même qui est secret. Et c'est un peu à la découverte de ces secrets, par l'approche des roches, qui ne sont pas, comme nous le verrons, des choses, des entités statiques, mais qui vivent et qui bougent, évidemment, pas à l'échelle humaine, mais l'homme est capable, par le raisonnement, d'arriver à les faire revivre, et nous espérons, grâce à cette cassette, que vous aurez l'occasion, finalement, de voir que la montagne, c'est autre chose qu'un tas de cailloux désordonnés. Donc ça va être un peu le but de cette découverte.
Merci Michel pour ces informations. Il va être le moment de quitter la piste entre les oreilles et de rechausser vos skis sur un bon kilomètre plus vallonné, où vous trouverez, nous l'espérons, le plaisir de la glisse. C'est qu'en effet, vous avez atteint l'altitude 1340 mètres et que dorénavant, le profil de la piste, plus varié, va vous permettre d'adapter sans cesse votre geste au relief rencontré. C'est ainsi que sur les parties plates ou légèrement montantes, vous chercherez toujours à allonger les foulées pour profiter au maximum de la glisse d'un ski sur l'autre.
Je crois que l'élément essentiel qu'il faut avoir à l'esprit quand on fait du ski de fond, c'est qu'on passe constamment d'un ski sur l'autre. On n'est pratiquement jamais en équilibre sur deux skis, en dehors des descentes où là, évidemment, on est en équilibre sur les deux skis à part égale, mais le reste du temps, on est constamment en train de passer d'un ski sur l'autre. Donc de l'équilibre sur un ski à l'équilibre sur un autre ski. Alors il y a quelques points de repère qui permettent de se rendre compte si ce transfert du poids du corps d'un ski sur l'autre se fait correctement. Bon, il y en a un qui est assez parlant, je crois, c'est le fait de vérifier que lorsque le ski arrière vient se reposer sur la neige, eh bien, il ne claque pas au moment de sa reprise de contact avec la neige. S'il claque, c'est le signe que l'équilibre sur un ski n'est pas assez assuré et que donc on se sent obligé de reposer le ski trop tôt. Alors, lorsqu'on skie tout seul et qu'on veut vérifier si on effectue correctement ce mouvement de transfert du poids du corps, eh bien, on peut essayer d'écouter si le ski, au moment de sa reprise de contact avec la neige, ne claque pas trop fort. Et puis, il y a une deuxième image, je crois, qu'on peut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut essayer, lorsqu'on fait du ski de fond, de constamment aller grimper sur le ski avant, sur le ski de glisse. On n'est pas en équilibre, le corps n'est pas en équilibre sur deux skis, mais il va constamment grimper sur le ski de glisse, le ski avant.
Rajoutons, pour compléter ce que vient de dire Christian Montessu, qu'au sommet des bosses ou dans les parties descendantes, il faut pousser simultanément sur les deux bâtons. Et puis qu'il faut aussi garder les pieds à la même hauteur, au même niveau, sans fléchir les genoux. Et enfin, dans les descentes, vous adapterez une position très fléchie, main en avant, près du sol. Si la pente devient plus forte, vous fléchirez encore davantage et vous laisserez même traîner vos bâtons. Le prochain lieu d'écoute se situe sur cette même piste bleue, mais cette fois, nous serons sur le versant nord de ce massif, que l'on nomme Ubac, alors que nous sommes ici sur l'Adret, le versant sud.
Tout en haut de la maison, là, c'était tout. En haut des chalets, c'était tout net, il n'y avait pas de berroche, il n'y avait rien. Et dans les crottes, dans les combes dessus, là, j'y allais en champ, il y avait le garde forestier qui s'y était veillé, parce que de l'autre côté, c'était déjà planté, du côté de la borde. Et puis, il y avait eu des vaches qui avaient été. C'était ceux de Paul Lafayette de Châtillon qui avaient monté, puis qui n'avaient pas tenu leur vache, et puis ils étaient venus dans les sapins. Et puis ils se veillaient. Puis moi j'avais un chien, il était comme ça. Je ne peux pas dire que c'était un chien, je n'avais pas eu de mal à le dresser, il s'était dressé tout seul. Dans les combes dessus, il y a le chemin qui traverse. Comme ça passe avec les tombereaux, ça marquait bien le chemin. Parce qu'ils montaient encore avec les chevaux, hein. Il n'y avait encore pas de voiture, il n'y avait pas de jeep, il n'y avait rien qui montait là-haut. Le chien, il savait qu'il fallait. Quand je lâchais les vaches, il fallait qu'il traverse le chemin. Le chien montait devant, il ne laissait pas les vaches passer de l'autre côté de la route, du chemin. Alors le garde, il s'était veillé toute une journée pour voir qui c'était qui avait pu aller en champ là-bas. Il me dit, mais comment vous avez fait pour dresser votre chien? J'ai dit, j'ai pas dressé, c'est lui tout seul. Pour aller dans le champ de l'autre côté, c'était encore à moi, je suis forcé de tout la traverser puis que de me veiller de l'autre côté. Parce le chien ne les laissait pas aller.
Parce que là, c'était des communaux ou c'était privé?
C'était tous des communaux. Là.
Alors comment vous faisiez pour les...
On les louait, c'était à la... on les misait. J'en payais pour 12 francs, moi, la commune. En 48.
Donc une fois par année, il y avait une...
La mise, on avait les parcelles, tant de parcelles qu'on misait. J'en avais 3 parcelles, moi. J'en payais pour 12 francs.
Vous pouvez à nouveau ranger votre baladeur dans sa banane.
Nous voici donc au lieu d'écoute numéro 2, intitulé « Montagne molle, montagne dure ».
Maintenant, dans cet arrêt, nous avons franchi le portail des Alpes. Nous sommes vraiment dans les Alpes, dans la montagne, mais dans une partie simplement de cette montagne. Et c'est-à-dire dans la deuxième partie que nous avons vue au précédent arrêt, qui était donc la partie entre le Mont Blanc et la plaine. Donc nous sommes entre le Mont Blanc et la plaine et nous allons analyser maintenant, essayer de comprendre quelle est la signification de cette partie dans l'histoire des Alpes. Et pour comprendre cette signification, qui est une histoire ancienne, qui paraît a priori peut-être un peu difficile, nous allons utiliser tout simplement les types de paysages qui se présentent devant nous. En fait, il y a deux mondes ici, devant nous, bien que nous soyons toujours dans des roches déposées dans la mer, dans tout le panorama que nous avons devant nous. Mais il y a quand même deux mondes devant nous. Alors, ces deux mondes, ce sont tout simplement, sur votre gauche, vous avez des montagnes, mais des montagnes, pour les puristes, c'est peut-être pas des montagnes, c'est montagnes à vaches. C'est vraiment des montagnes arrondies, très simple, vous voyez qu'il n'y a pas d'escarpement, vous pourriez vous balader sans aucun problème dans tout cet ensemble, sans rencontrer de difficultés particulières de cheminement. Il n'y a pas d'escarpement majeur, il n'y a pas de falaise, on ne peut pas faire de l'escalade dans ce type de montagne. Donc c'est des montagnes avec des courbes très arrondies, des paysages très mous, vous voyez. Et deuxième particularité de ce paysage, si vous regardez bien, eh bien, la géologie ne parle pas tellement dans ce paysage. Les roches, c'est-à-dire que les roches ne sont pas très visibles. Qu'est-ce qu'on voit essentiellement? De la végétation. Ce premier monde a un nom, je dirais, local, géographique. Les gens l'appellent le Chablais. Le terme de Chablais vient tout simplement d'un terme qui ancien, qui signifie chable, à partir du terme chable. Et chable, c'est tout simplement un couloir dans lequel on descendait les troncs d'arbres. Vous voyez qu'effectivement, si on avait une exploitation forestière en face dans ce massif, grâce aux ravines qui existent creusées par l'eau, il est très facile d'en dégager une et d'utiliser cette voie naturelle que l'eau nous a préparée pour descendre des troncs d'arbres dans la vallée. D'où le terme du Chablais. Vous voyez qu'il y a un rapport très étroit entre la dénomination locale utilisée par les gens qui vivent dans cette région et l'origine géologique de ce massif. Alors ce premier monde, nous en avons fait le tour. Maintenant, déplaçons-nous dans la partie droite du panorama et abordons notre deuxième monde. Comment nous allons le caractériser par rapport au premier? Je pense que tout le monde aura une réponse relativement simple parce que c'est quelque chose qui saute aux yeux, qui littéralement crève le paysage. C'est un relief. Si on devait le caractériser par rapport à notre relief mou du Chablais, c'est un relief très géométrique. Vous voyez qu'il y a des angles très prononcés, des falaises en particulier. Donc vous avez un angle entre le sommet de la falaise et le bas de la falaise. Vous avez un angle entre une falaise qui s'arrête, une autre qui reprend plus loin. Bref, un monde qui possède une certaine puissance géométrique que n'avait pas du tout les formes, qu'on ne trouvait pas du tout dans les formes arrondies du Chablais. Ça, c'est le premier élément qui vraiment saute aux yeux, c'est que pour parcourir ce monde, vous voyez que si vous imaginez, si on reprenait l'image du promeneur, il faut associer aux qualités du promeneur des qualités de grimpeur, des techniques très spécialisées pour parcourir de fond en comble ce monde. Il y a donc des obstacles, ces obstacles sont créés par des roches très résistantes, et ces roches résistantes, alors on ne les voit pas avec la neige, mais elles sont aussi claires que la neige l'été, ce sont donc des calcaires, des roches calcaires. Et c'est par le biais de ces roches calcaires que nous allons rentrer dans une deuxième caractéristique de ce monde, c'est que cette fois-ci, il y a très peu de végétation dans ce monde. Alors malgré la neige, vous verrez que les limites des forêts restent assez basses, et puis que plus haut, la neige n'est quand même pas suffisante en épaisseur pour masquer des forêts qui auraient pu exister. Vous voyez qu'il n'y a pas de forêt plus haut, et que la majeure partie de ce massif est dépourvue de végétation suffisamment haute pour être visible l'hiver, telle que des forêts. C'est donc une absence de couvert végétal qui va s'opposer à la présence continue du couvert végétal que nous avions dans le Chablais. Et pour tout simplement, on a une explication que la géologie nous fournit pour cette différence, c'est que les calcaires sont des roches solubles. C'est-à-dire que quand l'eau va les attaquer, alors elle va les dissoudre, comme quand vous prenez l'image d'un sucre que vous mettez dans un verre d'eau. Si vous mettez qu'un seul sucre dans l'eau, vous verrez que dans un verre d'eau moyen, vous verrez qu'en peu de temps, votre sucre va disparaître parce qu'il se retrouve à l'état dissous dans l'eau. Donc la matière est toujours présente, mais sous une forme éclatée, si je puis dire, dont vous ne voyez pas les particules. Alors c'est exactement ce qui se passe quand l'eau attaque les calcaires. Le calcaire, c'est notre sucre. Ben, l'eau, c'est toujours la même eau, simplement l'eau du ciel, c'est la pluie, c'est la neige en fondant qui libère de l'eau, et les calcaires se dissolvent dans l'eau. Donc, en disparaissant dans l'eau, ils ne laissent aucun résidu pour le sol, donc ils ne retiennent pas l'eau comme des roches insolubles, et la végétation ne peut pas s'y installer. Il n'y a que quelques petites plantes herbacées qui arrivent à s'accumuler, à se développer dans des petits creux. Alors, ce qui est très caractéristique de ces roches calcaires, que vous ne voyez peut-être pas là, mais qui fait la célébrité de la région de Samoins, c'est que ces roches étant solubles, l'eau la dissout, s'infiltre dans des fissures, élargit ces fissures, et cette eau va disparaître sous terre et se réunir le long de certaines grandes failles, des grandes cassures majeures qui vont organiser l'eau sous terre pour former des rivières souterraines. Et la région de Samoins est célèbre à ce titre-là parce qu'elle possède d'une part le plus grand gouffre du monde, le plus profond du monde, plus d'un kilomètre 6 de profondeur, et elle renferme également plusieurs autres réseaux qui sont parmi les 15 premiers du monde en profondeur. Et ceci, cette particularité de la région de Samoins, ce qui fait sa célébrité au point de vue spéléologique dans les explorations sous terre, est tout simplement due à la présence de ces roches calcaires. Alors maintenant que je vous ai présenté les deux protagonistes du paysage devant nous, il y a toujours des petits malins qui vont me poser la question pour dire « Et pourquoi ? Pourquoi d'un côté il y a des montagnes dures ? Pourquoi d'un autre côté il y a des montagnes molles ?» Alors il y a des réponses des fois un peu simplistes, qu'une montagne molle est une montagne vieille, une montagne dure est une montagne jeune, mais ce n'est pas le cas ici. Les géologues ont travaillé, ont étudié les roches, des montagnes molles, des montagnes dures, ont trouvé des fossiles, c'est-à-dire des restes d'animaux qui ont vécu à l'époque où ces roches se sont formées, dans les mers anciennes. Et ces restes d'animaux, ou de végétaux éventuellement, mais surtout des animaux, parce que c'était des mers essentiellement, ces restes donc montrent que les roches molles et les roches dures ont le même âge. Alors il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a juxtaposé, dans un espace très étroit, vous voyez que la frontière entre les montagnes molles et les montagnes dures est très rapide. On n'a pas de zone de transition progressive. C'est vraiment deux paysages, deux mondes différents, deux mondes rocheux qui sont juxtaposés. Et par cette question très simple, en fait, si on essaye de répondre à cette question, on va rentrer plus profondément, et vous allez rentrer plus profondément dans la compréhension de la formation des Alpes. Vous verrez que c'est pas compliqué en fait. À partir de sa juxtaposition des deux mondes, on va aller assez loin finalement dans la compréhension. Alors, juxtaposition de deux mondes. Juxtaposition avec des roches de même âge. Il y a donc un problème. Alors ce problème, comment on peut le résoudre ? Alors, on pourrait imaginer qu'il y a une transition très rapide entre une mer dans laquelle se déposent des roches calcaires, qui est notre monde géométrique, notre monde dur, et puis devant une mer plus profonde, par exemple, dans laquelle se dépose de la boue qui, en se solidifiant, donnera des roches qui resteront quand même molles et donnera notre monde mou. Bon, c'est une première hypothèse. Quand on étudie de plus près vraiment le contact entre les deux, en fait, on s'aperçoit que cette première hypothèse ne tient pas debout, dans la mesure où on peut mettre presque la main sur le contact entre le monde dur et le monde mou. Et quand on regarde de plus près ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire ce contact, on s'aperçoit qu'on a des roches broyées, des roches écrasées. Donc, on a quelque chose qui est déformé, écrasé, et que ce contact entre le monde dur et le monde mou se fait en fait par une grande cassure, et n'est pas un passage graduel. Alors, s'il y a eu cassure, on peut très facilement, à partir de cette cassure, c'est qu'il y a eu choc. Il y a eu choc entre deux mondes. Et ce qui veut dire, on arrive facilement à notre solution, le problème de notre juxtaposition entre monde dur et monde mou. S'il y a eu choc, comment on peut créer un choc ? Mais en déplaçant des objets, en les faisant se rencontrer. Donc en faisant une collision. Pensez au choc entre deux voitures. Si vous avez une Renault qui télescope une Citroën, il est bien évident que ça vous fera peut-être qu'un tas de ferraille, mais que si vous vous approchez un peu près pour voir, vous verrez qu'il y a deux voitures. Et bien c'est à peu près ce qu'il y en a ici. Le résultat, c'est qu'on a une collision entre deux objets primitivement différents, qui étaient donc disjoints dans l'espace, qui étaient éloignés les uns des autres, et ils ont été rapprochés. Et ce rapprochement, évidemment, quand vous voyez les masses qui sont mises en jeu, ne sont pas des voitures, mais ce sont des montagnes entières, donc des milliards et des milliards de tonnes qui sont en jeu, c'est évidemment des forces énormes. Et ces forces, quelles sont-elles? Eh bien, ce sont les forces qui sont responsables de la formation des montagnes. Et ces forces sont tout simplement celles qui, à la surface de notre globe terrestre, sont le moteur de déplacement des grandes plaques sur lesquelles les hommes vivent, qui sont les continents, et les mers qui nous entourent également aussi. Et ces plaques se déplacent. Et en se déplaçant, il est évident qu'elles arrivent à certains moments à se rentrer dedans, à entrer en collision les unes des autres. Et c'est en entrant en collision que l'on va créer des zones, des secteurs de déformation. De la même manière que quand deux voitures se rencontrent, on produit des déformations de capot ou de mâle, suivant que le choc est frontal ou par derrière. Et avec ces collisions, on va bien sûr déformer les zones de contact et on va créer, donc, on va réduire l'espace. Et en réduisant l'espace, il faut bien mettre les roches qui occupaient cet espace quelque part. Donc le meilleur moyen de réduire cet espace, finalement, c'est d'empiler les choses. Alors voilà l'explication de la juxtaposition de nos deux mondes. Donc une collision à une très grande échelle, et nous avons devant nous un des témoins de cette collision, dont on retrouve de nombreux autres dans toutes les Alpes. Mais l'avantage de ce panorama, en étant parti, vous voyez, de deux mondes, simplement entre un monde dur et un monde mou, c'est d'un peu de vous faire comprendre que l'édification d'une chaîne de montagnes, et plus particulièrement de celle des Alpes, résulte d'une collision. Et de voir que cette collision a pour conséquence de juxtaposer, finalement, des roches qui n'avaient rien à voir à l'origine, c'est-à-dire des roches qui s'étaient formées dans des mers tout à fait différentes, éloignées les unes des autres, et qui ont été rapprochées de façon presque artificielle, enfin postérieurement à leur formation, les unes des autres par un processus de déformation.
Merci Michel. Le prochain lieu d'écoute sera plus calme puisque consacré à la forêt et au monde végétal.
Et vous restez donc tout l'été là-haut? Non.
Je faisais l'alpage, je montais. À ce moment-là, on lâchait les vaches, c'était 5 heures le matin, j'avais trait, on lâchait. Puis je descendais foiner en bas chez mes parents, je remontais vers les 7 heures le soir, je traisais, puis je lâchais jusqu'à minuit. De minuit à 5 heures.
Moi, il n'y avait pas les parcs comme maintenant. Il
fallait aller en champ, 3 heures le matin, 3 heures le soir. Je rentrais les vaches tous les jours, je faisais l'écurie, puis pendant qu'ils montaient les vaches. Comme il y avait les sentiers des vaches qui faisaient le tour comme ça, puis qui montaient, j'avais le temps de reculer, puis je montais tout droit pour rattraper les vaches en haut, quand j'avais sorti le fumier. C'était vite à la montagne, parce que vous poussiez avec un rat, c'est tout. C'est 10 ans, ça.
Vous pouvez à nouveau éteindre votre baladeur et le ranger dans sa banane. Lieu d'écoute numéro 3, la cathédrale vivante, avec René Amoudru, technicien de l'Office national des forêts.
Vous voici donc arrivé devant le porche. Sur votre droite, en rentrant, nous avons un mélèze d'Europe. C'est un résineux très exigeant en lumière, d'où son installation ici, en lisière de forêt. C'est un arbre qui se caractérise par des rameaux de deux types. Les uns sont allongés d'un jaune pâle, les autres très courts en forme de petits tubercules. Le mélèze perd ses aiguilles à l'automne, d'où son nom de Larix decidua, decidua qui signifie perd ses feuilles. Vous pouvez également remarquer son écorce très épaisse et crevassée de teinte brun-rougeâtre. Sur ce tronc de mélèze, vous pouvez également remarquer la présence de nombreux lichens sur les branches et également sur le tronc. Ces lichens qui sont l'association d'un champignon et d'une algue.
Les lichens appartiennent au monde végétal. On les rencontre en de nombreux lieux. Rochers, terre, troncs, branches. Les lichens résultent de l'association de deux êtres, une algue et un champignon. Ce sont donc des plantes symbiotiques. Le champignon joue plusieurs rôles dans le lichen. Par ses filaments, il en forme l'ossature et assure son accrochage au support. Les longs filaments mycéliens assurent la nutrition de l'algue, lui apportant substances minérales et substances de croissance. L'algue contient de la chlorophylle. Elle est donc capable d'utiliser le gaz carbonique de l'air et de le transformer grâce à l'énergie lumineuse en matière organique. Les substances fabriquées passent alors dans le champignon. Il y a donc coopération entre ces deux êtres, ce qui permet aux lichens de vivre en des lieux où ni l'un ni l'autre ne pourraient vivre.
Maintenant, je vous invite à pénétrer dans la plus étonnante cathédrale que la nature ait elle-même bâtie, dont les colonnes sont ici représentées par les fûts des épicéas et l'ogive par l'ensemble des houppiers.
Maintenant, placez-vous devant le banc pour regarder ce qu'il y a à l'arrière-plan.
L'épicéa est le résineux le plus commun sur le plateau d'Agy. Il se reconnaît par ses branches inclinées vers le bas, à rameaux plus ou moins pendants. Ses aiguilles sont disposées tout autour des rameaux. Elles sont quadrangulaires, aiguës et piquantes, vertes sur toutes les faces. L'épicéa est une essence de demi-lumière dans sa jeunesse. Regardez la clairière située à l'arrière du banc. Les semis d'épicéa se développent dans cette clairière à l'ombre des sorbiers des oiseleurs qui sont des feuillus donnant un ombrage léger. En grandissant, ils vont demander plus de lumière, d'où la nécessité d'enlever ces feuillus dans les années à venir. À l'ombre de ces épicéas, à côté du banc, se situe un sapin d'une dizaine de mètres de haut. Vous pouvez remarquer qu'il pousse sous les épicéas. Le sapin est une essence dite d'ombre, c'est-à-dire que ses semis peuvent se développer à l'abri d'autres arbres et pousser normalement durant plusieurs années. Ensuite, il réclame plus de lumière pour continuer son développement. Le sapin se singularise par ses aiguilles disposées en peigne de chaque côté des branches. Elles sont arrondies à l'extrémité, de couleur vert foncé sur une face, et munies de deux lignes blanches en dessous. Sur le sol, vous pouvez observer des cônes d'épicéa. Il est le résultat de la fécondation de la fleur femelle par le pollen porté par le vent, depuis les fleurs mâles. Vous voyez que certains de ces cônes sont rongés ou déchiquetés. Pourquoi ? Le cône renferme des graines. Une partie de celles-ci servent de nourriture aux écureuils et aux oiseaux, tels que le bec croisé des sapins, qui coupe également l'extrémité de certains rameaux, comme on peut l'observer également sur le sol. Un autre oiseau que l'on va également trouver dans cette forêt, le casse-noix, qui se nourrit également de graines trouvées dans les cônes. Les autres graines sont nécessaires à la régénération de la forêt en donnant des semis, tels que vous avez pu le remarquer tout à l'heure dans la clairière située derrière le banc, sous le sorbier des oiseleurs. Ceux-ci sont âgés d'environ 15 à 20 ans. Maintenant, sur votre gauche, en regardant l'entrée, vous pouvez remarquer un bouquet de gaulis. Ce sont des arbres âgés d'environ 30 à 35 ans qui ont la grosseur d'une gaule, d'où le terme de gaulis. Vous voyez que ces arbres sont relativement serrés, d'où un manque de lumière dans le sous-bois, ce qui va occasionner la mort puis la chute des branches basses de ces arbres. C'est ce que l'on appelle l'élagage naturel. Maintenant, levons notre regard vers les grands épicéas. C'est ce que l'on appelle une futaie mûre. Ces arbres sont âgés d'environ une centaine d'années pour une hauteur d'une trentaine de mètres et un diamètre à 1,30 m qui varie entre 50 et 60 cm. Vous pouvez voir que les troncs de ces épicéas sont plus ou moins bien élagués suivant qu'ils étaient plus ou moins serrés dans leur jeunesse, et notamment au moment du golis. Maintenant, faites la comparaison avec les arbres situés en lisière, qui eux ont des branches vertes jusqu'à leur base et un tronc conique, contrairement à ceux du centre. Derrière le sapin se trouve un épicéa sec. Celui-ci a été attaqué par un insecte faisant partie de la famille des bostriches, et nommé Hyps typographe. Cet insecte creuse des galeries sous l'écorce des résineux, principalement l'épicéa. Ensuite, l'écorce tombe et l'arbre meurt. Vous pouvez observer sur le bois les galeries creusées par ces insectes, d'où le nom de typographe. Nous voici arrivés au terme de la visite de cette cathédrale vivante qu'est la forêt. Mais n'oubliez pas que sous son allure imposante, la forêt reste un milieu très fragile, que l'on doit absolument préserver pour nos générations futures.
Vous allez entamer le retour vers le chalet d'accueil. Les descentes sont plus nombreuses sur ce tronçon du parcours. Aussi, nous vous rappelons quelques consignes de sécurité. D'abord, skiez sur la trace de droite, car celle de gauche est réservée au dépassement. En cas d'obstacle sur votre trace, sortez un ski de celle-ci et ouvrez un demi-chasse-neige pour vous ralentir. Le ski resté dans sa trace vous maintiendra dans la bonne direction. Pour éviter tout accident, avant d'aborder une descente, attendez que le skieur qui vous précède ait terminé celle-ci. Et enfin, ne stationnez jamais dans une descente.
Au mois d'août, on faisait l'éveillé. On allait chez l'un, chez l'autre le soir. On ouvrait la porte du fourneau pour voir clair. Puis on s'assoyait tous devant pour tricoter à la lueur du fourneau. Ben, on jouait aux cartes, ou on chantait, on se racontait des blagues de dans le temps, des trucs comme ça.
Voilà. Puis faisait le café.
On faisait le café.
Puis couler dans la fossette.
Ouais, c'était une dame de la rivière. Elle avait. Et puis Mina, la mère à Constant.
Ah, oui.
Alors, eux, ils avaient. Bon, on jouait aux cartes, nous. Alors, on jouait à l'homme noir, on était tous autour de la table. Puis les deux mémés, ils avaient leurs chaussettes. Alors, ils avaient un banc qui était long. Et puis, ils étaient assis chacun d'un bout à califourchon sur le banc. Puis, ils avaient mis la lanterne. Tempête au milieu pour tricoter leurs chaussettes. Et puis elle faisait le café, alors elle, c'est ces vieux fourneaux beignes qui sont bas. Puis à ce moment, c'était en 49, 50, ça fait encore assez vieux. Ils avaient encore les socs en bois, vous savez, les socs cuir dessus, semelle de boîte.
Oui, oui.
Puis s'enlaçaient, on enfilait ça comme ça, hein, à Montagne. Alors elle était assise comme ça sur son banc, et puis la casserole pour faire bouillir sa cafetière avec sa tacle, le filtre en tissu. Et puis elle cuisait dans sa casserole, puis elle mettait dans sa tacle, tout en tricotant. Elle posait son tricot, elle prenait, puis elle sent le bord de la cafetière, elle y verse, elle se verse l'eau chaude dans son sabot. Elle se lève d'un bond, parce que ça l'avait chaudé. Elle a quitté sa sauve vite. Mais non, tant qu'elle est assise sur l'autre bout, ça a levé, puis la lanterne avait tombé. On trouvait plus la lanterne. Vous voyez des... Mais on allait tous les soirs, depuis le mois de septembre, parce qu'à 9h... À 8h30, c'est nuit. Hein. C'est déjà sombre, alors on allait chez l'un chez l'autre jusqu'à 10h, 10h30. Puis on se rentrait en chantant tout le long.
Mais étonnant, il y avait quand même quelqu'un là qui restait ici ou il y avait les
Ah,
parents
mais mes parents, ils restaient. Moi, les j'étais toute seule là-haut. J'avais
ah, oui,
j'ai monté la première année, j'avais 15 ans. Ah. 15 ans, j'avais 7 vaches, puis 5-6 génissons, et puis une dizaine de chèvres, puis une vingtaine de moutons.